1, 1, 1. T'as du son là ?
D'accord.
Ça va ? Ouais.
Bah alors, les tomates, ça va pas être possible, je suis en blanc.
C'est quoi Django ?
C'est quoi ça ? Symfogo, ouais. Je savais pas, alors j'ai fait ça. Ouais. Django pour les développeurs Symfony. Ou l'inverse, je sais plus. Parce qu'on s'embrouille hein, quand on switch de techno comme ça, au bout d'un moment, on sait plus où on habite. Voilà, alors qui suis-je ? Je m'appelle Nicolas Perriot, je suis développeur web depuis pas mal d'années, peut-être 12, et entrepreneur depuis 3 semaines. Donc voilà. Merci. J'ai manipulé pas mal de techno, essentiellement PHP. Hein. Oh, y a pas eu de... Un peu de Ruby à une époque, un tout petit peu de Java à une époque avec un très mauvais souvenir, et pas mal de Python depuis peu en fait. Hein. Donc gros newbie quand même. Hein. Et, a fortiori en Django, parce que j'utilise pas mal Python pour des scripts d'admin, des trucs comme ça, mais c'est vrai que au niveau framework web, je suis membre de la core team Symfony. Un framework concurrent dans un... Enfin, concurrent, bon, faut pas avoir la concurrence partout forcément, mais en tout cas, dans un langage que vous n'aimez pas beaucoup, moi non plus, qui s'appelle PHP, qui a le mérite d'être... Enfin, en tout cas, la caractéristique principale d'être extrêmement implanté et répandu et utilisé, en fait, sur le domaine des applications web. Voilà. Donc, c'est une réalité du marché. Quand même. Voilà. C'est intéressant. Hein. Ah, moi, j'aime bien. Bug de clavier, c'est pas grave. Ok. Donc, Symfony quoi ? Symfony, c'est un framework web, donc un peu comme Django, qui est créé en PHP 5, donc la version 5 du langage PHP, pour ceux qui connaissent pas PHP. Non, je rigole. Mais voilà, langage web, etc., très connu. Il y a eu la version 3 qui était moisie, la version 4 qui était encore plus moisie, enfin moins. Quoi. Et la version 5 a un peu professionnalisé quand même le langage avec une implémentation d'un modèle objet qui ressemble de très loin à celui qu'on peut avoir en Java, avec des interfaces, des classes abstraites, des méthodes statiques, tout ça. Enfin, voilà, une portée de membres, avec des membres protégés, privés, voilà, des choses qui n'existaient pas du tout avant, quoi. Alors son cas, donc ça, on va dire, ça a professionnalisé une certaine catégorie en fait d'utilisation qui était faite de PHP. Et donc avec cette arrivée de version du langage, les professionnels, les boîtes, etc., se sont intéressés finalement à la technologie PHP 5 avec ce qu'elle apportait en plus. Et il y a un certain nombre de frameworks qui sont sortis en fait de cette phase. On connaît le Zen Framework, il y a aussi Symfony, du coup, qui sont vraiment les deux frameworks en PHP 5 qui ont la plus forte visibilité aujourd'hui, je crois, avec quelques PHP aux États-Unis, mais qui est très PHP 4 par contre, avec des pratiques un petit peu moins modernes quant à l'utilisation des nouvelles capacités apportées par PHP 5. J'essaie vraiment d'éviter les trolls, mais c'est pas facile, hein, je suis sur moi et tout. Voilà, donc aujourd'hui Symfony c'est en version 1.4, voilà, enfin il y a deux versions stables, maintenues 3 ans par Sensio Labs. Et voilà, il y a une version 2 qui est en préparation, qui exploite les fonctionnalités apportées par PHP 5.3, notamment la gestion des espaces de noms, après 10 ans, mais avec un caractère de séparateur qui est l'anti-slash, donc voilà, d'où ma présence ici. Voilà, Symfony, donc Sensio Labs, un éditeur derrière, une boîte du support long terme, c'est-à-dire la capacité d'une boîte à s'engager sur la maintenance du framework, en termes bien évidemment de bugs, mais aussi de sécurité. Donc ça intéresse pas mal les DSI. Voilà, ils ont l'impression d'être super protégés parce qu'il y a une boîte qui dit on patch la sécurité. Voilà. Grosse communauté par contre, ça c'est plutôt agréable. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens qui font du Symfony, de plus en plus, en France notamment, c'est une boîte française, Sensio Labs. Gros écosystème de contributeurs français, en tout cas de posts de blog, mais aussi à international. Puis Voilà, l'utilisation des grosses boîtes, genre Yahoo, Dailymotion, Dubuzz. Enfin, quelques belles références quand même pour le framework, quoi. Mais PHP. PHP. PHP, je pense que tout le monde a déjà fait quelques lignes de PHP, hein, du Hello World jusqu'à la première classe ou les premières fonctions. Donc, typage dynamique faible. Donc, encore une fois, j'en étais victime il y a quelques jours. Ceux qui me suivent sur Twitter, éventuellement, ils m'ont vu faire un gros rant sur cet aspect des choses. Alors, on peut fonctionner en mode impératif, ou programmation impérative, très procédurale, ou alors exploiter les fonctionnalités orientées objet du langage. Pas mal. Enfin, mieux qu'avant. multiplateforme, mais très limité au web. C'est-à-dire, PHP, c'est un langage qui a été créé vraiment pour... faire une page HTML, la suffixer .php en fait, et pouvoir mettre l'équivalent de server-side include. C'est un peu ça à la base quand même la philosophie du langage, faut pas l'oublier quoi. Et il y a encore beaucoup de produits sur le marché, genre WordPress, Drupal, je vais pas tous les citer, la liste est vraiment longue, mais qui vont effectivement avoir dans un même fichier du PHP et du HTML, avec une balise div, etc., un for each, et puis encore du HTML à l'intérieur, dans le meilleur des cas, quand le HTML n'est pas écrit dans des cotes, etc. Enfin, voilà. Donc c'est une des utilisations du PHP, Symfony c'est une espèce de surcouche autour de ça pour essayer de faire les choses un petit peu plus sérieusement, un petit peu comme en Django d'ailleurs. Voilà, donc limité au web, très limité au web, on peut faire de la ligne de commande avec, le problème c'est que voilà, PHP c'est aussi un langage qui est destiné à être détruit au bout d'une requête HTTP, hein, qui a une vie de durée effectivement très courte, stateless. Donc, tout ce qui est garbage collection, etc., voilà, c'est quelque chose, ils ne s'en sont pas trop préoccupés, et c'est un peu un problème quand on, par exemple, fait un démon en PHP, autant se tirer une balle tout de suite, ça ne sert à rien. Donc, c'est vraiment très très limité, très spécialisé, par contre, c'est très simple, niveau d'accès très bas, etc., ma grand-mère peut se mettre à faire du PHP, enfin, c'est vraiment un peu boulet compliant, quoi, c'est très limité, et peu structuré. Si c'est tweeté, mais oui, ça sera tweeté, mais allez-y. Faites-vous plaisir. Et voilà, peu structuré dans la mesure où moi il y a quelque chose par exemple en Python que j'aime beaucoup, c'est la structuration qu'impose l'indentation, la lisibilité, hein, qui induit une très grande lisibilité, qui rend compréhensible le code, concis, etc. Voilà, PHP, on peut mettre, alors il y a des accolades, des points virgules, etc., tout ce que vous en foutez. Mais en PHP, voilà, si on n'a pas mis l'accolade, si on n'a pas mis le point virgule, etc., on se fait engueuler, et puis... voilà, et puis on peut écrire un script PHP sur une ligne de 2500 caractères si on a envie, ça reste interprétable par le parseur de PHP. Donc on imagine tout de suite ce que ça peut engendrer voilà, en termes de reprise de code. Par exemple, on prend une application PHP, donc il y a du HTML, du PHP, des one-liners, des points virgules, des accolades qui ne sont pas toujours au même endroit, etc. Donc voilà, ces petits problèmes-là. Et par contre, effectivement, beaucoup de compétences sur le marché. Énormément de compétences sur le marché. voilà, si vous regardez sur Job Trends, par exemple, tapez PHP, Python, Ruby, voilà, mettez Java et .NET, et vous allez voir quand vous avez Java qui est là, et PHP qui est là, .NET, machin. Mais vraiment, PHP, c'est très, 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 très présent à des degrés divers de compétences, malheureusement. Mais en tout cas, il y a une grosse masse disponible de compétences. Alors, Python, par contre, Python, voilà, typage dynamique fort, donc au moins on sait toujours ce qu'on manipule, et ça c'est plutôt agréable quand on a fait du PHP et qu'on s'est arraché les cheveux. Alors on peut travailler en mode procédural, mais on travaille généralement, essentiellement avec l'aspect objet du langage. Multiplateforme, donc comme PHP, il y a énormément d'environnements d'exécution, et multi-usage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important comme distinction, c'est-à-dire que quand on passe dans l'univers Python, on ne s'aliène plus uniquement qu'au web. Si on a besoin de faire des scripts d'admin, des démons, pourquoi pas de l'embarquer, bon, enfin, c'est pas forcément la... Mais on peut le faire. On voit qu'il y a des frameworks maintenant même sur la téléphonie mobile qui vont exploiter Python, etc. Ça peut éventuellement se faire tourner dans des machines virtuelles Java, enfin, il y a vraiment énormément d'usages. Donc en fait, le scope, le champ d'action est fonctionnel et technologique, est très très important, donc ça ouvre des perspectives. Si jamais vous avez déjà eu à faire un démon par exemple pour surveiller quelque chose, une queue, n'importe quoi en PHP, c'est juste pas possible. Il faut changer de technologie ou utiliser un autre logiciel. Voilà, donc accessible aux néophytes, ça j'insiste parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah Python, c'est vachement plus dur que PHP », c'est juste l'inverse, vraiment. En termes de syntaxe, de lisibilité, par défaut, quoi, je veux dire, une définition de fonction, n'importe quoi, un traitement, c'est vraiment, je trouve, plus lisible et plus facile à expliquer, quoi, qui fait pas mal de formations, quoi, à des apprenants, que le PHP, où là, il va falloir expliquer que le type, il est dynamique, et qu'en fait, bah, là, s'il a eu un 0, en fait, c'est une chaîne de caractères, mais sur un malentendu, il va peut-être obtenir à nouveau quelque chose d'autre. C'est très très compliqué parce que voilà, les gens sont déstabilisés en fait quand ils découvrent un peu la magie, quoi, du langage et ce que ça peut parfois occasionner comme effet de bord. Donc à vraiment à modérer cette espèce d'idée reçue que le PHP est plus facile à prendre en main que n'importe quel autre langage et à fortiori que le Python. Pour Java, ça discute. J'arrive. Peu de compétences sur le marché, ça, je suis désolé les gars, enfin vous êtes tous là. Hein. Mais honnêtement, moi je fais énormément d'avant-vente, j'en ai fait énormément pour des SS2I, des web agencies, des what the fucky, enfin tout ce que vous voulez. C'est hyper difficile de pousser du Python auprès d'une DSI dans la mesure où le gars il va vous dire tout de suite, encore pas plus tard qu'à quelques jours, un client, je sais pas, ah Django c'est beau, c'est bien, c'est propre, c'est machin. Il y a qui dans la région, moi je suis de Montpellier, il y a qui fait du Django? Il y a David, il y a moi un peu. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi. Je prosélyte, je fais coucou, c'est beau Python, les mecs, arrêtez d'avoir peur, etc. Puis en France, on est un petit peu PHP Centrix ou Java Centrix ou .NET Centrix. On est surtout gros machin bien connu qui fait pas peur Centrix. Et ça, c'est pas bon. Donc, voilà. Éveil des consciences, regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs. Enfin, c'est pas vous, hein. C'est les DSI, les mecs en cravate et tout. Ok. Bon ouais, restons sérieux. Symfony, donc framework web comme Django, sur couche professionnelle à PHP. Souvent on dit oh, mais Symfony c'est en PHP, donc c'est de la merde comme PHP. Bon, moi je modère un petit peu le truc, c'est-à-dire qu'au contraire, il y a un constat qui a été fait, PHP c'est quand même l'outil du diable hein, pour s'arracher les cheveux, quoi. Donc il faut essayer de niveler le truc parce que c'est très implanté. Il y a énormément de distributions, par exemple, qui proposent des packages PHP natifs avec la page qui va bien, machin, ça s'installe facilement, ça se déploie facilement, ça se déploie aussi énormément n'importe comment, hein, parce qu'on va exposer tous les scripts PHP de la Terre derrière le Docker ou Apache à la WordPress ou à la Drupal, c'est pas force, enfin si c'est une critique. Quoi. Voilà, mais c'est-à-dire qu'il y a un problème de sécurité, enfin, d'enfer, quoi. Donc Symfony, lui, il fait non, enfin il essaye, parce que malgré tout, on a quand même des utilisateurs qui font n'importe quoi avec. Donc essaye de professionnaliser un petit peu, enfin en tout cas d'homogénéiser une partie de l'API que propose par défaut PHP et expose des fonctionnalités plus haut niveau pour éviter de redévelopper constamment hein, les mêmes choses pour traiter une requête web HTTP en 30 avec les entêtes dans un tableau, avec blablabla, une réponse, un modèle, une couche de persistance, enfin tous les trucs que tout le monde fait depuis qu'on fait du web en fait, hein, systématiquement. Voilà, alors ne réinvente pas la roue, très important, on essaye de prendre dès qu'il y a une lib qui est belle, qui est bien, qui est testée, et qui permet en tout cas de s'interfacer avec sans trop s'y coupler, on l'intègre dans Symfony dès qu'on peut. Et on favorise les bonnes pratiques et la réutilisation, donc tout ce qui est test, etc., découplage, blablabla, super. Et en fait, si on compare avec Django, c'est grosso modo la même chose. Ça exploite les richesses d'un langage, donc ça c'est la différence qu'on a avec eux. Il y a un gros patch à PHP, en fait Symfony on peut considérer ça comme un patch à PHP, mais j'ai pas peur. Pas peur, franchement c'est un peu ça quoi. Ça expose des fonctionnalités haut niveau, donc comme Symfony, ça réinvente pas la roue, on essaye effectivement à chaque fois d'essayer de réutiliser des briques, donc don't repeat yourself, kiss, machin, etc., les bonnes pratiques. Donc voilà, on a un scope fonctionnel qui est grosso modo très très similaire à Symfony. On verra un peu plus tard les petites subtilités, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'on a un équivalent, on a un alter ego. Et, je change de champ lexical, j'étais dans les concurrents, mais en fait non, on a des alter ego dans les langages. Et RL, c'est pareil, c'est un alter ego. C'est pas la compète, c'est pas machin, c'est plutôt une source d'inspiration qui permet de tendre vers... Moi, plutôt que les technologies entre nous, je préfère les bonnes pratiques, la bonne organisation, une bonne communication projet, un business plan, un truc qui n'existe plus. Quoi. Enfin, des trucs comme ça, plutôt que d'aller se fighter sur « Ouais, mais là, tu utilises la version 3.2 du langage. » et tout. Finalement, ça n'aboutit pas à grand-chose la plupart du temps par rapport aux problématiques fondamentales de tout projet web. Quelques stats pour faire du bullshitisme. Donc là, on a la courbe en bleu, c'est Symfony. Et la courbe en rouge, c'est Django Project, c'est en gros le nombre de fois que le nom de domaine est cité dans des logs ou je sais pas quoi. Enfin, je suis tombé. Ah bah non, c'est Google Trends. Ok, donc c'est Gérard Majax. En dessous, on a Langpop, qui est déjà un truc un petit peu plus cadrant, avec un petit peu plus de travail sur les données et leur pertinence, où ça va scanner des mailing lists, des tickets de support, des plein de forges d'outils open source pour voir quels sont les langages les plus utilisés. Donc, bah, je vous ai dit, hein, Java C, tout le monde oublie le C, mais il est là. Donc Java C, C++ et PHP, quatrième langage en termes de popularité. Encore une fois, voilà, moi je viens de monter ma boîte, j'ai un marché Python à 3%, j'ai un marché PHP, bah, je vais quand même essayer d'aller monter le marché Python parce que. Mais quand même, c'est vrai que en termes de. C'est pour ça que ça. Il y a beaucoup de gens qui demandent du PHP, etc. Ils sont rassurés par la masse que ça représente, par l'écosystème. Ils ne regardent pas la loupe ce qu'il y a dans l'écosystème, mais ils voient un énorme machin. Avec des boîtes qui vendent du support, des plateformes, qui commencent par un Z, etc. Donc ça rassure pas mal de gens, quoi. Au niveau statistique, ouais, alors ça, je suis tombé là-dessus sur Job Trends justement, et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était pas le cas l'année dernière où j'avais fait le même graphe pour Scrumpy. Coucou David, j'ai pas oublié. Et en fait, le graphe, il y a une bonne tendance quand même sur les jobs Django, quoi, qui globalement la volumétrie tend à être quand même supérieure à celle de. Alors, je compare Symfony, je compare pas Python et PHP. Quel cas vous allez avoir un ratio de 10 par rapport au boulot, etc. Mais c'est intéressant de voir que c'est mondial, hein. C'est pas français. En France, c'est légèrement biaisé dans la mesure où Sensiolab, c'est une boîte française, il y a beaucoup de docs en français, natives, etc. Mais en tout cas, à l'échelon international, il y a énormément de boulot en Django et plus qu'en Symfony. Donc ça, c'est intéressant, c'est quelque chose que, auquel je ne m'y attendais pas. Ça reste des stats et donc c'est du. Bah si, quand même. Ok, un petit détour sur les fonctionnalités et leurs différences. Donc, on va commencer par, par les fonctionnalités communes. Je vous ai dit que c'était un peu un alter ego. Sarah Fabien Potentier, qui est lead développeur du projet Symfony, en fait, s'inspire énormément de Django ou de Rails. Ouais, s'il m'entend dire ça, ça. Mais en fait, c'est vrai. Enfin, en tout cas, Django, on en a parlé et tout. Et le framework de formulaire, c'est clairement une grosse inspiration de Django. En même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est bidirectionnel, c'est-à-dire que c'est un peu une symbiose plus qu'une compète destructrice, dans la mesure la Web Debug Toolbar de Symfony, qui est un outil qui permet d'introspecter des constants de projet, des variables de config, des choses comme ça, directement dans l'interface web, dans votre navigateur, en fait. Bah, c'est clairement le mec qui a fait le plugin, là, la Django Debug Toolbar, a fait un super post que je trouvais super transparent. Il dit, bah voilà, ils ont fait ça Symfony, je trouve ça bien, je leur fais en Django. Et tout va bien, quoi. Donc il y a pas mal de petites de ponts en fait comme ça fonctionnels qui sont intéressants et donc on retrouve énormément de choses. Anin Generator en Symfony, Django Admin en Django, avec évidemment beaucoup plus de fonctionnalités avec l'admin de Django parce qu'il a une compréhension de la persistance des utilisateurs et des ACL, chose que n'a pas Symfony en natif, donc ne peut proposer d'outils d'administration permettant de faire justement au moins toutes les opérations de persistance, de manipulation des comptes utilisateurs. C'est un parti pris de Symfony qui externalise complètement la gestion de tout ce qui est persistance d'utilisateurs, de comptes d'ACL, etc. Même s'il y a un framework de gestion de l'authentification, des credentials, la persistance de données dans la session, etc. Mais donc voilà, gros, enfin si on devait faire un comparatif, effectivement l'admin de Django est beaucoup plus complète fonctionnellement, beaucoup plus riche. Sinon, routing, URL propre, bidirectionnalité, donc bidirectionnalité, c'est capable d'avoir une requête entrante, on répond à une URL et on va restituer une réponse correspondante, quoi, trouver un contrôleur, c'est un peu le but. Et la bidirectionnalité, c'est quand on est dans un template, on va faire un lien vers une URL, donc on peut reverse engineering une. Enfin non, générer une URL. Et voilà, donc il faut que ça marche dans les deux sens, et bien évidemment qu'on n'ait qu'un seul référentiel, et ça, Django et Symfony le font extrêmement bien. On a une couche d'objets, enfin de mapping relationnel objet en français. Ouais, ça. Donc en Symfony, on en a deux, bon, why not. En Django, il n'y en a qu'un, why not non plus. Mais ça fonctionne, ça fait le boulot. Framework de formulaire, couplée potentiellement à la couche de persistance, c'est intéressant, peut transformer en une opération un objet de données en formulaire et le traiter en tant que tel. Des helpers, des templates tags, parvient dessus, une gestion de la ligne de commande, des outils de debug, voilà, en cas d'erreur dans un environnement donné, debug true en Django, mais en Symfony, ça va être un environnement qu'on va appeler dev, par exemple, où on va configurer la web debug toolbar, la gestion de la stack trace en HTML, etc. Donc là, on a vraiment des fonctionnalités que je trouve similaires. Les filters middleware, hein, on s'intercale entre la requête et le contrôleur, on fait des trucs, etc. On instancie des factories, enfin, on fait plein de trucs. Des events, les signals, bon, concept légèrement différent d'une part et d'autre, mais qui ont une même vocation, quoi. Hooker. ACL, donc ça j'en ai déjà parlé, la gestion de la session. Et alors, les fixtures, bah, moi il y a un truc que j'apprécie beaucoup en Django, c'est la diversité des formats d'import pour les fixtures. Quoi. Donc en JSON, en XML, en YAML, en Python, enfin surtout, enfin en Python, enfin quoi que ça se valide au moins. YAML. Parce que YAML, ouais, le gros problème du YAML, qui est un langage textuel en fait, c'est qu'il n'a pas de système de validation de schéma. Donc il est super sexy à lire, bon, on verra des exemples, vous comprendrez mieux. Framework de test, unitaire et fonctionnel dans les deux cas. Donc là, on voit bien que dans les deux frameworks, on a vraiment la même notion de la qualité, en tout cas la même intentionnalité de poser les bonnes pratiques de développement. Notion d'environnement, bon, en Symfony, c'est très très formalisé. Au début, quand j'ai commencé le projet en Django, je disais, ah, il n'y a pas d'environnement, c'est l'enfer. Et puis après, il y a le coup du try-catch sur les imports. Voir un truc pas très propre de définir des variables d'environnement côté serveur pour charger un truc que j'ai essayé, mais enfin, c'est vraiment pas une bonne pratique, donc je n'en parlerai pas. Mais en tout cas, le coup du try-catch pour essayer d'importer un fichier de conf, je trouve ça pas mal. Et finalement, on arrive à obtenir quasiment le même genre de granularité quant à la gestion des environnements, ce qui n'a pas l'air du tout d'être le cas quand on lit la doc de Django, et ça, je pense qu'il faudrait qu'il fasse un truc. J'ai trouvé ça sur un blog post de 2007 ou un truc comme ça, enfin, c'est bizarre. Fonctionnalité. Alors, là où on a des petites divergences, bah, Symfony, pour moi, c'est un de ces énormes points faibles qui va être résolu en Symfony 2, dont les fichiers de conf seront destinés à être écrits en YAML. Bon, il y a eu un tollé, tout le monde, en XML. Il y a enfin voilà, la verbosité d'XML, etc. Ça énerve tout le monde, donc on va garder l'YAML quand même. Mais moi, je sais que d'expérience, encore une fois, quand je fais formation, tout ce qui est débugage, assistance aux utilisateurs qui sont en galère, etc., c'est essentiellement de la validation du format YAML. Ou si vous mettez une table, ça ne valide pas. Voilà, une syntaxe très particulière à observer. Et encore une fois, pas de validation de schéma. Une validation syntaxique, Fabien réécrit le parseur qui est utilisé en Symfony. Donc ça va un peu mieux, on a au moins le numéro de ligne où il y avait l'erreur, mais pendant des années on n'a même pas eu le numéro de la ligne, donc c'était juste pas possible quoi. Donc c'est très pratique à lire, à écrire, etc. Sauf quand on se gourre ou à débugger, ça devient un enfer sur Terre et tout. Donc voilà, moi la configuration en Python dans les settings, je trouve ça juste parfait. En plus il y a le système de modules en Python qui permet d'avoir un namespaceage, je sais pas comment on dit, mais un espace de nom. Qui permet voilà, de pouvoir importer ça facilement et de manipuler des constantes en fait, ou des variables. Voilà, alors là on attaque le point qui fâche beaucoup en Symfony, enfin qui arrange énormément de hackers PHP, c'est les templates en PHP brut. Donc un template en Symfony, c'est un fichier PHP dans lequel vous pouvez écrire die, toto. Et vous aurez marqué toto sur une page entièrement blanche, quoi. Bon, c'est particulier, moi d'expérience, ça encore le mec écrit d'Aitoto, j'en vois pas souvent, mais des mecs qui font des requêtes SQL dans les templates, par exemple, j'en vois plein tout le temps, hein, je fais beaucoup d'audits. Donc les mecs font « ouais, moi je fais du MVC et tout », et puis dès qu'ils peuvent faire une requête, et parfois sans faire gaffe, alors qu'en utilisant Doctrine qui est un objet relationnel, enfin machin, une couche ORM quoi, des fois dans le contrôleur on récupère une instance par exemple de blog post, et on se dit « ah bah je suis dans mon template, je veux commentaire », bah « get comment ». Sauf que le gars n'a pas préparé la jointure, donc depuis un template, il y a quoi qui part ? Il y a la requête pour récupérer les commandes depuis le blog post. Et ça, les gens ne s'en rendent pas souvent compte, etc. Et c'est vrai que le moteur de template, c'est pas mal là-dessus. Ça permet d'éviter ce genre de blague. Après, bon bah alors, l'héritage de template n'existe pas en Symfony, va certainement exister en Symfony 2. Va exister en Symfony 2, mais c'est juste énorme ce que vous avez en Django, la capacité de surclasser des bouts de templates en héritant toujours d'une base. et que ça soit à l'infini, quoi. En Symfony, il y a deux niveaux. Il y a le layout, qui est le décorateur avec les en-têtes HTML, hein, pas HTTP, HTML, puis le contenu qui correspond au résultat restitué par un contrôleur. Donc, il y a deux niveaux. Et ça, parfois, c'est très gênant. Alors, il y a des patchs pour pallier à ces deux niveaux. Il y a les partials, les slots et les components. Donc, c'est l'équivalent de ce que moi j'ai trouvé être l'équivalent des partiels en Django, mais jetez-moi des tomates, c'est pas ça, mais c'est with include, pour voilà, passer des variables à un template, quoi, depuis une vue. Des blocs pour les slots et les templates inclusion tag pour avoir ce qu'on appelle l'équivalent des components, qui est en Symfony une notion très particulière. C'est un partial, donc un bout de template, mais qui a un contrôleur qui est complètement dissocié du contrôleur standard. Donc c'est un petit MVC encapsulé dans la vue du MVC. Très intéressant à débugger aussi. On peut beaucoup s'amuser. Mais c'est super pratique. Hein. Vous avez un Netvibes, un truc comme ça avec des widgets, hein, widgets, tout le temps. Et ben voilà, des petits composants comme ça, qui ont leur logique propre, etc. Encapsulables à l'intérieur de la vue, manipulables, testables. C'est quand même pratique, même si en termes de design, on ne fait plus du tout du MVC au bout d'un moment, on fait un truc de zarbi, quoi. Voilà, la persistance des ACL. Ça existe en Django, c'est par un plugin externe pour Symfony, déjà pour la simple et première raison qu'il y a deux ORM dans Symfony disponibles, qu'on n'utilise pas en même temps, hein, faites pas les cons. Mais il y en a deux, donc déjà le plugin, il y a deux plugins de persistance des ACL qui essayent d'avoir grosso modo la même API, mais comme c'est pas les mêmes qui l'ont fait, ils sont pas toujours d'accord, enfin, c'est l'enfer. Mais bon, il y a un plugin maintenant. L'ORM officiel de Symfony, c'est Doctrine, et c'est vrai que le plugin il commence à être sérieusement maintenu, utilisable, etc. Donc il y a moins de problèmes. Et du coup, on retrouve le problème qu'évoquait Olivier, je crois, qui disait il avait rencontré beaucoup de problèmes vis-à-vis de l'utilisation d'un modèle de persistance utilisateur par rapport aux autres librairies hein, qui existent et qui veulent exploiter une persistance utilisateur. Oui, il y avait des from Django, contrib, user, enfin, ou autre, enfin je ne sais pas lequel. Il y avait des imports qui n'avaient pas lieu. Bon, bah, on a exactement la même en Symfony, donc ça c'est cool, encore une dépendance très forte à un plugin qui s'appelle SFGuard Plugin, qui est un truc de gestion de la persistance des utilisateurs, des groupes et des ACL. Alors les formats et le RESTful Routing de Symfony, ça c'est vraiment une grosse spécificité qui a été introduite en 1.2, c'est assez pratique. C'est, si vous voyez le modèle RESTful de Rails, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire pour un modèle objet, enfin de données, en fait, enfin un modèle, ouais. En base de données, une table, l'exposition ORM d'une table, vous pouvez exposer toute une série de verbes HTTP, de contrôleurs, etc., de templates aussi, qui vont permettre d'exploiter en HTTP des opérations sur ce modèle. Et donc c'est assez pratique et les formats en fait c'est une association entre une extension. Alors une extension qu'est-ce que c'est? C'est quand on demande dans une URL toto.html, bah, Symfony va détecter que c'est un .html qui est demandé. Bon, il n'y a pas de .html sur le serveur, hein, c'est pas... Mais du coup il va dire il veut du HTML, je vais rendre un template HTML. Si je demande du .json, bah, par défaut, en fait, mon routing RESTful, il va me permettre directement d'aller chercher un template qui va décorer mon objet, mais en JSON, etc. Qui fait qu'en fait faire un flux RSS ou comme ça c'est juste 20 minutes quoi et en même faire un web service JSON et ça se fait vraiment très facilement. Ça j'ai regardé un peu avec Django, bon, enfin ça devient du dev quoi, c'est-à-dire que effectivement on peut mettre une variable en fait plutôt que faire un render partiel ou je sais pas quoi, j'ai plus le nom en tête, mais au lieu de mettre toto.html on met toto.une variable et puis ça c'est une variable du routing quoi, qui va être enfin, avec une expression régulière, on va vérifier que c'est soit JSON, soit HTML par exemple. Et en fonction, on va chercher un autre partiel qui est nommé différemment, même dynamiquement, même dans l'URL, à la limite, ça se gère tout seul, quoi. Donc finalement, cette fonctionnalité de format, on la retrouve quasiment en natif dans Django. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, i18n, tout est i18n dans Symfony, pour la simple et première raison que c'est un projet français. Et qu'on est putain de sensibilisé là-dessus, parce qu'on a tous au moins eu affaire, généralement dans notre vie professionnelle, un site en version française et en version anglaise. Dans le monde anglophone, généralement, les projets open source, bah voilà, ils visent l'anglais, etc. Alors, en Django, il y a un très bel effort au niveau traduction d'interface, localisation, il y a des validateurs, etc. Au niveau ORM, j'ai pas trouvé grand-chose. Peut-être que j'ai très mal cherché. Encore une fois, j'ai pas une super expérience, mais la possibilité d'avoir, par exemple, une table qui va exposer dans des tables liées, en fait, la traduction d'un certain nombre de champs déclarés comme traduisibles. Donc ça, en doctrine, c'est un behavior, en fait, qui s'appelle ACTAS 18N, un peu à la Rails, la nomenclature, mais c'est comme ça. Et c'est super pratique, quoi, parce que moi, toute la journée, j'ai des clients qui me demandent des versions multilingues, quoi.
Tu veux dire.
D'accord. C'était ça? Et ouais, des jointures sur deux bases différentes déjà, compliqué. Ça se fait, hein. Ça se fait. Mais bonne bourre. J'en étais. Ouais, voilà. Donc, à part sur cette histoire d'ORM, bon, on a quand même un scope qui est vachement intéressant au niveau support de l'internationalisation dans Django. Surtout comparé à ce qui existe peut-être sur d'autres techno ou d'autres frameworks, généralement un peu ethnocentré sur, si ce n'est sur l'américanisme, au moins sur l'anglais, sur la langue anglaise. C'est vrai que des fois, c'est un peu pénalisant. La gestion des messages flash, la persistance en session d'un message juste pour une requête, etc. Donc ça, enfin, Django, quoi. Je comprends pas pourquoi ça a mis autant de temps à arriver, mais c'est vachement pratique pour faire des notices, des warnings, des choses, mais uniquement... Pour un coup, quand on a une transaction qui a été effectuée, on fait un redirect, mais juste avant, on positionne un message dans la session qui va être affiché à la requête suivante et immédiatement détruit pour pas qu'il soit affiché plein de fois pour rien, en fait. Et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ça. C'est vraiment de la microfigure en plus, hein. C'est vraiment trois lignes à écrire, quoi. Donc, voilà, la Web Debug Toolbar, donc on a vu qu'il y avait un super plugin. Et alors, par contre, le petit serveur web intégré, le test run server, là, et tout ça, run test server. Non, run server, c'est le pour lancer le contrôle continu des tests. Run tester. Run test. Bon, le truc qui permet quand on modifie un fichier de lancer les tests, c'est ça. D'accord. Désolé. Mais ça, c'est des trucs. Moi, ça me fait baver, quoi. C'est vraiment super. Enfin, par rapport à Symfony, si Symfony pouvait implémenter ça, mais imaginez juste écrire un serveur web en PHP. Alors, résumons, parce que c'est ça qui est intéressant. Bah, Django, c'est super sexy. Ouais, j'ai pas fait le truc qui s'affiche progressif. J'aurais dû, là, parce qu'il y a une chute, quoi. Non, mais c'est vrai, Symfony, bah, mine de rien, les mecs, on peut cracher sur tout ce qu'on... Mais c'est quand même sympa au niveau scope fonctionnel et implème, quand même. Python, c'est super sexy, c'est un beau langage, etc. Et PHP, c'est juste une réalité du marché. Et moi, j'insiste toujours avec ça, c'est-à-dire que les mecs, on est dans un monde où, ouais, il faudrait faudrait un peu surveiller ce qui se passe. Moi-même, je le fais en Java, bon, en .NET, vraiment, j'ai vraiment du mal, mais je le fais en Java, je le fais en PHP, je le fais en Python, je le fais en Ruby, pour au moins garder un petit peu de matière à réflexion et de veille techno, et voilà, de PHP. Il faut savoir que si un jour vous avez le contrat du siècle qui va vous rendre millionnaire avec les femmes partout, machin, désolé. Mais c'est vrai que si ça doit être fait en PHP, des fois vous avez des DSI qui sont intraitables là-dessus, ils veulent du Java ou du machin. Et s'ils vous demandent du PHP, parce que les mecs sont sillés partout en PHP, etc., Arc Symfony, ça peut être l'occasion éventuellement de tenter quelque chose, mais évidemment, après avoir essayé de convaincre les gens pour utiliser des technologies plus modernes. Des langages plus modernes, plus sérieux, tels que Python. Ça, c'est clair. Plus concrètement, rapidement, je sais pas combien, je me suis pas benché en fait, mais je sais pas combien de temps il reste.
Il reste 10 minutes.
Ok, bah c'est parfait. Je vais vous présenter un cas concret en fait. Une petite application qui a été faite par Maurice V, qui est designer, qui a travaillé longtemps chez NetVibes. Qui avait fait une petite application pour stocker en fait des quotes IRC, quoi. Sur une petite interface web extrêmement simpliste qu'il avait fait extrêmement rapidement il y a très longtemps, donc en PHP 4. Et en fait, c'est une application que j'ai installée chez Sensio, parce que je travaille chez Sensio. Et c'était l'outil dans lequel on mettait toutes les cotes internes des commerciaux ou des devs avec des gros trolls, des trucs terribles. Et c'est vraiment une application que j'aime beaucoup parce qu'elle est, elle est simple, quoi. Le scope fonctionnel est méga simple, le code est vraiment simple. Et donc à migrer pour tester une techno, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc ça, c'est l'application originale qui est jolie parce que c'est Maurice Veil qui l'a fait. Et ça, c'est version Django qui est moche parce que c'est moi qui l'ai fait. En plus, je suis daltonien, donc c'est en noir et blanc. Donc c'est l'enfer. Mais toujours est-il que c'est y a la version Django et tada, il y a la version Symfony. J'ai fait les deux. Strictement même scope fonctionnel. Tout ça est sur GitHub, donc go and get it while it's hot. Ben, c'est dispo dès maintenant. Je suis bon en commercial. Hein, donc voilà, ces deux applications. Je me suis dit, ben voilà, c'est une application complète avec des fonctionnalités qui sont définies, des fonctionnalités très standards. Et voyons ce que ça donne sur une implémentation. Dans un langage et une techno donnée, et dans une autre. Bon, blablabla, show me the code. Donc, ouais, gros disclaimer, parce que je sais que dans le menu, on aime bien se bâcher la gueule quand on fait une connerie. Voilà. Donc, moi, je prends vraiment la main sur la techno Python Django. Donc, je vous laisse lire et puis je vais y aller. Mais, non, parce que j'ai, en fait, comme j'ai mis le code sur GitHub, j'ai déjà eu des gros. Parce que GitHub permet de faire des code review en mettant des petits commentaires à côté des lignes, etc. Et tiens, vas-y.
ça. Bitbucket, il y a moins de monde.
Ah non, pas le troll Bitbucket, Git.
D'ailleurs, c'était vachement plus visible sur GitHub que sur Bitbucket.
C'est
tant mieux.
Le routing, donc moi j'ai fait comme ça. Mais en gros, c'est simple, on définit une liste de... Pourquoi il y a deux parenthèses, je sais pas. Ah non, c'est le reflet. Wow. C'est filmé. Ah, non, c'est vraiment, en plus, c'était pas... Enfin, ça pourrait faire croire un gag qui n'en était pas un, en fait. Alors, c'est un tableau. Enfin, moi, j'appelle ça un tableau, j'ai fait trop de PHP. Mais voilà, une collection d'URL en fait qui vont définir via cette méthode URL en fait des masques d'expression régulière en nommant des paramètres et appeler des vues qui sont en fait finalement des méthodes d'un module vue. Mais enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça, c'est certainement super minable et tout, mais ça a le mérite de fonctionner. Au niveau routing Symfony, alors je vous ai dit c'est du YAML, donc tout ce qui est route, etc. c'est du YAML. Donc ça a l'air concis, machin, etc. Déjà pour faire ça, il y a la moitié des trucs qui ne sont pas documentés. Mais c'est parce que moi je connais par cœur, donc je fais ça de façon très courte. Mais en gros, j'ai un. Alors c'est très compliqué, c'est une SF Doctrine Route Collection, c'est un mapping URL objet entre des instances d'objets, des listes d'objets, des masques d'URL et des verbes HTTP. Donc, c'est un peu. Vous avez dit bloatware, oui, mais ça fonctionne vachement bien, quoi. C'est-à-dire qu'en peu de lignes, quoi, finalement, on va pouvoir générer un max d'URL potentiel en gérant toujours le verbe HTTP dispo. Et puis là, j'ai une route qui définit une home page avec un module, une action. Donc, on a exactement le même genre de notions que en Django avec les vues. Et les contrôleurs. Voilà, là il y a une petite méthode en ligne de commande que j'ai appelée qui s'appelle app route. Je fais bien la séparation entre les deux syllabes. Et vous, en fait, en écrivant juste ça, ça me permet d'avoir. Et la homepage évidemment qui représente la ligne qui est là. Vous avez un certain nombre d'URL disponibles qui sont là et les champs préfixés par deux points sont les champs dynamiques. Donc vous avez à chaque fois ID, parce que j'ai pas fait de slug, j'avais la flemme. Et des fois ça sert un peu à rien aussi, quoi. SEO, machin, ça. SF format, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le suffixe qui permet de faire un mapping vers un type MIME, en fait. C'est comme ça que ça se passe en interne Symfony. On a fait par convention que HTML, ça mappait vers les types MIME. Je connais plus par cœur, mais texte HTML, texte X-HTML, tout un paquet de trucs qui correspondent finalement à l'extension HTML. ça utilise des libs super standards et tout pour faire ce mapping là, donc normalement il n'y a pas de. Et en plus c'est surchargeable dans un fichier de conf. Toujours est-il que ça permet d'exposer comme ça un certain nombre de routes automatiquement, donc c'est un peu magique. Voilà. Moi j'aime beaucoup l'adage Django, explicite, over implicite, parce que effectivement, ça c'est super beau, super magique, mais quand on voit ce que ça fait derrière, en fait, souvent on le découvre quand on débug, ce qui est toujours un peu tard en fait pour prendre des décisions, de découvrir le code pour arbitrer ou corriger. Donc voilà, c'est extrêmement magique ce qui se passe là, et c'est vraiment deux philosophies qui s'affrontent. L'une qui est extrêmement explicite, qui va vraiment déclarer les patterns, les noms des méthodes, etc. Et l'autre qui est un petit peu magique, mais qui est néanmoins très pratique hein, pour prototyper. Honnêtement, c'est quand même super, quoi. Au niveau des contrôleurs, donc ça c'est un contrôleur Symfony. Enfin, c'est trois actions Symfony dans un contrôleur. Permet en fait de gérer la page d'accueil où je vais instancier un pager. Enfin, bon, j'ai pas mis la méthode getPager, mais en gros, c'est un new pager, quoi. Et je lui passe une requête. Donc en Symfony, il y a l'équivalent plus ou moins des vues génériques, mais c'est limité. C'est limité parce qu'en fait, il fait. Comment expliquer ça ? C'est pas forcément facile de gérer le filtrage des requêtes utilisées par les vues génériques. Enfin, c'est-à-dire qu'on se met à écrire plus de code qu'on en gagne en ne pratiquant pas de la sorte. C'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode qui permet juste d'instancier un pager en lui passant une requête. Et donc, dans mon modèle, là, on le voit pas, mais j'ai dans ma table fortune, j'ai des méthodes getLatestQuery, top, worst, etc. Bon, c'est une petite subtilité symphoniesque. Mais en Django, j'ai fait ça. Ne me bâchez pas. J'ai exploité la object list. Et j'ai juste un critère en fait qui est passé en argument, qui est issu de l'URL, en fait, qui va déterminer le sens de tri en fonction d'un nom. Donc si j'ai top, je vais classer par vote décroissant. Donc fortune, donc c'est des votes sur des cotes, etc. Donc plus, moins, super simple, quoi. Donc top, voilà. Enfin je vous la fais pas quoi. C'est vraiment super simple. Ce qui est intéressant, c'est de comparer la manière dont sont implémentées les deux versions. Alors les templates. Donc là je suis en Symfony, et donc moi pour moi c'est ça qui aujourd'hui me pose beaucoup de problèmes. Alors bon avec PHP, mais ça fait longtemps, c'est une vieille histoire entre lui et moi, machin. Mais avec Symfony, et ça sera réglé en Symfony 2, il y aura un vrai moteur de template. Donc avec une syntaxe très proche de celle de Django, dont on s'est beaucoup inspiré, enfin dont Fabien s'est beaucoup, c'est lui qui a tout codé, je ne vais pas dire que j'ai fait, quoi. Mais en tout cas moi j'adhère vachement à la nouvelle philosophie de Symfony 2 qui se rapproche beaucoup de Django dans l'aspect explicite. Mais là en Symfony 1 en fait, un template PHP c'est ça, et il faut savoir que c'est rendu, donc ça c'est un template qui ne contient donc, c'est du HTML5, donc il y a une balise article et tout. Et autour, il y a un layout qui est aussi un gros fichier PHP, etc. Et ça, en fait, c'est évalué avec un eval, etc., pour être injecté dans le layout et décoré par le layout. C'est une philosophie, quoi. J'essaye vraiment de... Non, mais c'est vrai que ça peut poser un certain nombre de problèmes, même si, franchement, honnêtement, ça fonctionne pas trop mal. C'est juste que... Moi, j'ai essayé de faire les trucs un peu propres comme je pouvais, quoi, en utilisant la syntaxe en tableau, alors que c'est des objets doctrine, dollar fortune, etc., puisqu'il y a un reaccess, c'est des trucs de PHP 1. Ça. Mais imaginez ce que ça peut donner dans les mains de quelqu'un qui découvre le framework, qui se dit « Oh, il est tard, je suis fatigué, je vais faire ma requête SQL là-dedans », il peut. Il fait ce qu'il veut, là, il met die toto, il met while true, il tue le serveur, enfin il fait ce qu'il veut, quoi. Exec, SSH, enfin. Non mais c'est fou, quoi. C'est risqué. Alors il y a un BR style clear boss, je sais pas pourquoi elle est là. Hein. C'est rien. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Oui, alors ça c'est intéressant ta question. En fait, le mapping URL objet, il fonctionne. Ah, mais je vais pas dans le bon sens. Ok, là je vous ai dit que on déclarait. Bah là par exemple, je déclare un certain nombre d'actions potentielles faisables sur un objet de type fortune. Et je déclare systématiquement le verbe HTTP qui va être utilisé pour effectuer ces transactions généralement. Donc en fait, pour voter, j'ai dit que c'était du put. Voilà. Pourquoi ? Parce que. Enfin, parce que c'est de la modification. Et ouais, voilà, quand on crée un commentaire, c'est de la création, donc post. Ok. Toujours est-il que c'est pour ça qu'on retrouve cette notion de put dans le linkTo. Alors linkTo, c'est juste un helper à la con qui fait un ahref égal. Généralement, je préfère être explicite moi aussi, donc je fais des ahref, sauf quand j'ai besoin justement de passer une méthode. Je trouve ça assez concis, surtout que là, le label du link, c'est plus ou moins. Donc voilà, dans ces cas-là, j'aime bien aller vite et faire ça. Donc en gros, on passe le label du lien et l'URL, elle est constituée des trois paramètres là. Donc il y a le fortune up, c'est le nom de la route, c'est ça. Dollar fortune, c'est une instance d'objet, mais c'est pareil en Django. Quand vous faites un permalink ou un truc comme ça, vous faites un URL vers l'instance d'objet. Quoi. C'est le même principe. Il y a le petit plus, le petit nice to have qui permet de décrire des verbes HTTP. Honnêtement, c'était vraiment web. Ouais, c'était pour illustrer la fonctionnalité parce qu'elle apporte pas forcément grand chose. C'est en plus voilà dans l'immense désavantage qu'il y a à ça, c'est pour ça que c'est une moyennement bonne pratique, c'est que ça va générer l'appel en put depuis un lien hypertexte, un navigateur ne sait gérer que le get et le post quoi, en JavaScript obstrusif, tout est dit, donc ne faites pas ça chez vous. C'était juste pour montrer la fonctionnalité. Non, mais dans des back-end etc, d'avoir une méthode delete pour des actions, ça peut être intéressant pour éviter s'il y a un crawler qui passe sur un lien delete. Bon, mais c'est un faux patch, quoi. C'est un faux patch. Bah, je vais vous faire une démo. Alors, je vais vous faire une démo. Oh, mais mets le perso, c'est cool. Ça. comment ça s'appelle ce truc ? Comment je l'ai appelé ? Je sais plus. Si, SF. Voilà, là vous voyez, il y a les liens en question en fait, qui sont écrits en link to machin. Bon, je débute avec le nom, donc je sais pas. Oh, qu'est-ce que c'est nul quand même. Voilà, en fait ça fait ça. Ah, bah, alors quand je peux pas augmenter la typo de la toolbar, mais en gros. Oh, attendez, j'ai un Mac. Donc bon, bah F égale machin, c'est la cata. C'est la cata, ne faites pas ça chez vous. Mais bon, c'était juste pour vous montrer que ça existait. Non, par contre, le fait de gérer les verbes HTTP, ça c'est pas mal quand vous faites du web service, par contre. Quand vous exposez une API pour les gens, vous documentez les méthodes update, création, delete, etc. Options, pourquoi pas. Vous pouvez tout gérer en fait. Avec ces routes, en exposant systématiquement un modèle, un objet du modèle, une collection d'objets du modèle à du recrutage et de la transaction HTTP. C'est assez intéressant.
Pardon. Excuse-moi.
Ok, c'était. Ok, donc bon bah voilà les templates, pas grand chose à en dire. Ouais si, juste une petite note, là vous voyez je fais un get row value sur un objet fortune, donc il y a un objet du modèle de données. Ouais. Et en fait, tous les templates sont échappés par défaut. Tous les contenus HTML sont échappés, donc par défaut, c'est safe contre les XSS, les trucs comme ça. Assez important. Donc la même chose en Django, il y en a vraiment pour 2 minutes. Hein. La même chose en Django, donc des templates que moi je trouve beaucoup plus clean, beaucoup plus safe. Bon, tout est dit. Enfin, ouais, un helper, c'est juste pour montrer la différence de syntaxe pour ceux qui éventuellement ignoreraient ce qu'est PHP, quoi. Mais même en voulant être super clean, on écrit des trucs comme ça, alors que comme ça, ça s'écrit pas mal. Et encore, je suis pas un pitonneux du tout aguerri, quoi. Donc j'ai écrit ça complètement à l'arrache. J'aurais pu faire mieux, certainement. Mais enfin, je trouve qu'à reprendre et à lire, il n'y a quand même pas photo. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs, quoi. Voilà. Les settings. Donc, je vais pas revenir sur le fait qu'en Symfony, c'est du YAML et en Django, c'est du Python. Donc, ça se compile, ça se parse. Ça se réutilise facilement, il y a des modules donc du namespacing, etc. C'est tout bien, c'est vachement mieux. L'ORM, juste une petite... j'ai fait chier des mecs sur IRC hier soir avec ça. Mais j'ai réussi à faire ma requête, donc en Symfony, c'est ça, avec Doctrine, quoi. Bon, il y a une classe autour qui s'appelle Fortune Table. J'en chope une instance, et la méthode getTopContributors. Bon, ben voilà, je fais une... Enfin, ça donne ça. Hein ? Et en Django, un manager... avec une méthode topAuthors qui va prendre la valeur auteur, faire un count, donc un group by, et le trier par nombre de votes par nombre de contributions d'auteurs décroissantes et le paramètre du nombre d'enregistrements est là. Donc c'est bientôt fini, puisque c'est la dernière slide. Donc conclusion de l'exercice, c'est intéressant pour n'importe qui de voilà, prendre une application simple, hein, évidemment, un blog, n'importe quoi, Fortune. Vraiment au scope fonctionnel juste de base, quoi, et de la migrer vers un outil que vous souhaitez découvrir, connaître, pour vous apporter un autre point de vue. C'est hyper important quand on est développeur de changer un peu de point de vue, de paradigme, de culture logicielle, on va dire, de développement. Et je vous enjoins à essayer de faire ce type de travail, peut-être même vous de Django vers Symfony, pas pour vous torturer. Allez, normalement ça hurle. Voilà, et si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais. Bah, j'ai toujours été assez transparent là-dessus. Donc voilà.
Oui. Tu disais qu'il y avait une corrélation entre Symfony et Django, qu'il y avait une inspiration éventuellement, ouais, mutuelle. Et Plouf, alors, qui s'inspire beaucoup de Django d'après son auteur, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je pense que Plouf a inspiré Django, Rails et Symfony.
En plus, ça va plus vite, les benchmarks le prouvent.
Ah ben ça, de toute façon, on est tous très très impressionnés. Et, enfin, on a pris bonne note, en tout cas, des remarques constructives de son auteur qu'on compte prochainement mettre en œuvre pour obtenir vraiment quelque chose d'approchant, parce qu'on se sent un peu ridicule, en fait. Oui. Bah, il y a le côté RESTful, mais j'ai vu qu'il y avait des modules qui sont intéressants, très intéressants, mais qui sont des dépendances externes. Après, moi, je suis assez fan d'avoir une notion d'un cœur de framework qui est quand même volontairement limité, parce que si on commence à tout rassembler, même si ça reste découplé, il y a un moment, ça fait trop de choses à maintenir au sein d'un même projet avec tout ce qu'on connaît, quoi, une organisation qui grossit, un nombre de patchs à traiter qui grossit, un nombre de bugs... le nombre de lignes de code à maintenir, je sais pas qui dit ça, mais enfin c'est Ken Beck qui disait ça, quoi. Il disait chaque ligne de code que vous écrivez est à maintenir et à tester, et donc mais c'est du travail, en fait. Une ligne, un signe même, un signe supplémentaire dans votre fichier source, c'est du donc je comprends aussi qu'on n'embarque pas tout. Symfony, ça a été on a pris le parti de faire ça à un moment, mais je pense que ça s'arrête vraiment là après. Sinon, en termes de scope fonctionnel, je pense que enfin, il manque rien à Django, puisque tout se trouve dans l'écosystème de façon générale, à un moment ou à un autre. Ouais, il y a des plugins, ouais. C'était, ouais, bah en Django c'est des apps, mais ouais, c'est-à-dire qu'un projet Symfony, ça s'encapsule dans un plugin à part, ça peut déclarer ses routes, ses modèles, etc. Ouais.
Ouais, alors c'est une réaction à ce que tu disais juste avant. Sur la quantité du code, ce qui est dans le corps du framework, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans Symfony, ouais. et qu'il y a aussi dans d'autres, dans REST notamment, c'est le fait d'être agnostique au niveau de, on va dire, de sous-framework. L'ORM, c'est un sous-framework. Moi, je trouve intéressant de pouvoir avoir des ORM différents parce qu'il y a, il y a une vraie optique dans l'ORM et ça, elle peut pas forcément, elle peut ne pas convenir à tout le monde. Ça peut être le cas pour la partie du framework JavaScript qui est utilisé pour le web, le framework de template, le framework de ci, de ça. Et à ce moment-là, c'est intéressant au niveau du framework, lui, de gérer des zones d'interface où à peu près n'importe qui puisse développer quelque chose qui va s'accorder avec ça. Et, ouais. et là, ça devient intéressant et parce là, qu'on recentre.
Tu as dit un mot très important, c'est interface, pas ouais. forcément interface programmatique, quoique. Mais c'est souvent difficile, en fait. Par exemple, là, on a un projet, enfin, il y a Propel, qui est une couche ORM en PHP, et puis il y a Doctrine, ils n'ont pas du tout la même interface. Et après, en fait, exposer des fonctionnalités génériques pour ces deux ORM-là, vu qu'elles ont, elles, deux API complètement différentes, va à un moment impliquer d'avoir une espèce de couche d'abstraction d'ORM. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est posé la question. D'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle François Zignuto qui a fait un truc qui s'appelle DB Finder, qui est une couche d'abstraction de couche d'abstraction ORM. Et moi, il y a un moment, je ne peux plus. Donc, en fait, le prérequis, mais c'est vrai que tu as raison, c'est super intéressant. Dans un monde idéal, il faudrait y arriver, avoir des choses complètement découplables par essence, avec des interfaces qui s'encapsulent bien, etc. Mais c'est de travailler sur ces interfaces. En collaboration, j'ai un exemple qui vient tout de suite en tête. Vous allez avoir la validation côté modèle en 1.2, etc. Nous, à un moment, Doctrine a ses validateurs. On a un framework de validation de formulaires, en fait, etc. Et ce n'est pas les mêmes qui sont utilisés, quoi. Parce que c'est deux projets différents. Doctrine est venu se greffer sur Symfony. On avait déjà des validateurs. Eux, ils avaient déjà leurs validateurs. Et à un moment, il faudrait faire quoi ? Une abstraction de validateur ? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on part dans une direction où on se transforme en software.
C'est possible en Django et puis interfacer justement pour avoir un outil avec Django et on peut rajouter un formulaire, un autre ORM, l'ORM, on n'a pas forcément besoin d'outils, ce genre de choses-là. On peut aussi interfacer d'autres programmes dans Django.
Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, heureusement. Ouais.
Et justement, tu disais tout à l'heure, on peut pas, c'est pas intelligent d'utiliser ou dangereux d'utiliser deux ORM à la fois, mais moi ça me choque pas du tout. Par exemple, on voudrait utiliser.
En PHP, la perf, tu la sens passer parce que c'est des trucs qui sont assez lourdingues.
Si par exemple, tu veux utiliser une partie de ton application sur du MySQL et une autre partie sur du Redis ou du MongoDB, par exemple.
Moi, c'est ce que je fais systématiquement.
Chaque type a son ORM.
Et un même cache ou de plus en plus un MongoDB que j'aime beaucoup. Et qui va exposer l'équivalent des vues MySQL, mais en vachement mieux. C'est un autre troll et tout, je suis fatigué. Mais effectivement, tu as raison. Coupler les deux approches, persistance, cache, machin, ça peut être super intéressant. Et cette sorte de découplage, c'est un objectif à atteindre assurément. Ouais. De migration de schéma de base de données ? Ouais. Il y a South. C'est vraiment, ça marche super bien, quoi. Dans Symfony, il y a Doctrine propose un framework de migration et il fait même un truc de malade, c'est que, enfin, que moi je trouve. Mais encore une fois, c'est débat contre magie versus efficacité et responsabilisation du développeur quant à ce qu'il fait vraiment, notamment quand il manipule des fichiers de conf, quoi. Mais en fait, le schéma de modèle se définit en YAML aussi, en Doctrine. C'est-à-dire vraiment, on est dans ce langage qui s'appelle la YAML, qui n'est pas validable, enfin très difficilement, on va dire. Et donc, il y a un outil qui permet de surveiller les modifications qui sont apportées à ce fichier-là pour générer des classes de migration up et down et gérer une persistance du numéro de version dans une table dédiée du SGBD. C'est très, très magique, quoi. Et moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec ces systèmes-là, mais la fonctionnalité existe. Et de toute façon, on peut faire les classes de migration à la main. Donc à chaque fois, c'est une classe qui est préfixée d'une certaine façon, avec un numéro de version, deux méthodes, up et down. Et là, on peut rajouter des colonnes, en supprimer, faire des traitements, lancer des tâches pour faire un import, un split, la récupération de données distantes ou n'importe quoi. Donc la fonctionnalité existe.